invite à chercher dans votre Bible le livre d'Esther. Esther, le chapitre
10. J'oublie l'état. J'oublie l'état.
Devant le roi. Alors, mardi, Mercredi, jeudi sont consacrés au jeûne. Vendredi, Esther se rend devant le roi et obtient sa faveur. Le roi comprend qu'elle a une requête importante à lui demander et il est tout disposé à y répondre. Elle l'invite à un festin le jour même où elle doit lui faire connaître sa requête. Mais finalement, elle lui dit de revenir le lendemain, toujours accompagnée d'Aman, le premier ministre, et c'est le lendemain qu'elle lui confiera sa demande. Vendredi soir, quand Aman rentre chez lui, il est le seul de tout le royaume à manger avec le roi et la reine. Il est rempli de nuages. Et là, il prend une marque de chèque. Tout le monde se prosterne sur son passage. Une marque de chèque. Il est irrité pour aussi. Tellement excédé, il s'en ouvre à sa femme, qui lui suggère de faire dresser une potence pour lui faire prendre Mardoché dès le samedi matin, de sorte qu'il pourra aller au festin d'Esther d'armes en paix. En nuit, vendredi, samedi, le roi Assuérus n'arrive pas à dormir. Alors il se fait lire les chroniques des annales des rois de Perse, qui sont aussi soporifiques que. Le passage qu'il est lu rappelle l'intervention de Mardoché dénonçant un complot visant l'assassinat du roi. Et il apparaît que dans les annales, rien n'a été fait pour honorer ce Mardoché. Finalement, le roi s'endort comme un Saint-Germain, à la première heure, Aman arrive devant le roi. Il veut la tête de Mardoché. Mais le roi, avant d'entendre Aman, lui pose une question. Que convient-il de faire pour celui que le roi veut honorer? En lui-même, Aman pense, qui d'autre que moi, le roi veut-il honorer? Là, je voudrais prendre un instant, parce que je crois qu'il y a une vérité effrayante ici. C'est que l'orgueil ou l'orgueilleux est aveuglé par lui-même. Il ne voit que lui. Il ne voit que ses intérêts. Il ne voit que sa vie, ses désirs. Il marche avec assurance, mais il marche vers sa vie. Chapitre 6, je vais faire la lecture du verset 7 à 12. Aman répondit au roi, mais pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Il faut remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché et il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête froide. Imaginez sa journée de samedi. Il voulait le tuer ce jour-là. Et ce jour-là, il se promène dans toute la ville. C'est samedi. Tout le monde est en ville. Et il est obligé de crier, voilà, non. c'est pas fini, le samedi est long. Hein. Il faut qu'il aille encore au repas d'Esther. Le samedi soir, Esther, qui n'avait encore jamais révélé son religion juive devant le roi, va lui faire connaître sa demande. Elle lui dit au roi, permets que j'ai la vie sauve, moi et mon peuple. Alors le roi dit, mais qui en veut à ta vie? Et là, il pointe du doigt Aman. C'est lui, c'est Aman qui veut tuer tous les juifs. Et à ce moment-là, le roi comprend qu'il s'est tiré une balle dans le pied et qu'il a signé un décret à cause de la ruse d'Aman. Il sort dans le jardin pour se calmer et quand il revient, il voit Aman couché sur le lit d'Esther, en train de la supplier, et là, il interprète mal la situation et le fait périr immédiatement. Un serviteur dit, mais justement, Aman a dressé une potence. Et mon rapproché est celui qui va être pendu à cette potence. Chapitre 8, verset 1, il dit, en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui lui disait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman avant le temps, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Ça, c'est le bouquet d'aspis sur le gâteau. Tous les honneurs, toutes les possessions, toutes les richesses d'Aman sont pour Mardoché le juif. Le dimanche, Aman était hors d'état de nuire, mais son plan d'extermination n'avait pas été révoqué. Alors, une fois de plus, au risque de sa vie, Esther se présenta devant le roi sans y avoir été conviée, afin de plaider en pleurant la cause de son peuple. À nouveau, le roi lui tendit le sceptre d'or. Or, selon la loi perse, aucun décret signé et scellé par le roi ne saurait être modifié. Cependant, le roi a permis à Esther et à Mardoché de rédiger un autre décret autorisant les juifs de tout l'Empire. Au chapitre 8 et verset 11, nous lisons, et par ces lettres, le roi donnait aux juifs en quelque ville qu'il soit, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela, en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, le fin de jour. Quel serait ? Incroyable ! C'est spectaculaire ! En une semaine, tout a été bouleversé, changé. Au chapitre 8, toujours, et au verset 17, on lit « Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. » C'est le soulagement total. Au chapitre 9, on arrive au jour J, le fameux 13e jour du 12e mois. Les juifs se défendent face à tous leurs épaisseurs et ils tuent 500 hommes dans la ville de Suse, et aussi les 10 fils d'Aman. Et dans tout l'Empire, 75 000 hommes. Mais il dit qu'ils ne pillèrent pas leurs ennemis. En fait, ils n'ont fait que se défendre. Tous les hommes qui avaient saisi le premier décret ont commencé à vouloir se dépouiller les juifs. Les juifs se sont défendus et les ont tués. Esther demande un jour supplémentaire soit accordé aux juifs à Suse pour anéantir toute poche résistante d'antisémitisme. Et donc, non seulement le 13e, mais le 14e jour, c'est aussi seulement à Suse, les Juifs ont pu se défendre. Et donc, ils ont tué encore 300 hommes. Elle a aussi demandé que le corps des 10 fils d'Aman soit suspendu, pendu, publiquement. Les Juifs des provinces firent alors une grande fête. Donc le 14e jour, tous ceux des provinces, et puis le 15e jour, tous ceux qui étaient à Suse. Et ainsi a été instituée la fête de Pourim. La fête de Pourim, le nom vient du mot pour, le sort de pour jeté par Aman. Et plus tard, Mardochée a décrété que les deux dates, le 14e et le 15e jour, devaient être observées par tout le peuple juif. Comme les fêtes anciennes, cette nouvelle fête, elle devait être célébrée chaque année afin de rappeler cette merveilleuse délivrance aux générations futures. Et c'est ce que font les Juifs encore aujourd'hui, le 14e et le 15e jour de la ils font la fête des Pourim. Ils s'offrent des cadeaux et ils se font des petits repas. Et notamment, ils s'offrent des pâtisseries qu'on appelle les oreilles d'Aman. Et tout cela arrive sans miracle. Tout cela arrive sans miracle. Dans toute cette histoire, il n'y a pas de surnaturel. Dieu n'a pas frappé aveuglément les ennemis d'Israël comme il l'avait fait du temps d'Élysée. Il n'a pas ouvert la mer Rouge, ou plutôt le Tigre et l'Euphrate, pour sauver Israël, comme il l'avait fait à la sortie d'Égypte. Non, il a opéré leur délivrance au travers d'événements tout à fait ordinaires. Ce ne sont en fait que des coïncidences. Une coïncidence, c'est un miracle dans lequel Dieu préfère rester anonyme. Mais il est évident que dans ce livre, même si le nom de Dieu n'y figure pas, sa présence, elle, y est partout manifeste. Le choix d'Esther par le roi parmi des centaines de candidates, la découverte fortuite par Mardochée du complot contre Assuérus, l'insomnie du roi en cette nuit particulière, le choix judicieux de la lecture de cet épisode oublié des chroniques, tous ces incidents s'unissent pour constituer une preuve irréfutable que Dieu maîtrise tout. S'il le fait avec les personnages du livre d'Esther, nous pouvons être sûrs qu'il le fait aussi pour nous. Le cours de notre vie est habituellement vécu sans miracle. Et c'est ce que nous observons. Parfois, on aimerait qu'il y ait extraordinaire. Dieu paraisse. On aimerait une guérison instantanée. On aimerait une délivrance. Mais le coût de notre vie est habituellement vécu sans miracle. Mais pas sans la présence et sans la puissance de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. J'aime cette pensée-là. Il n'y a peut-être pas de miracle, il n'y a peut-être pas de surnaturel, mais il y a un Dieu qui est présent. Et il y a un Dieu qui veut, avec une sagesse, et une science, et une bonté, et une perfection. Et puis, tout cela se fait sans hasard. La Bible dit que on jette le sort dans le pan de la robe, ça c'est le proverbe 16:33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Les hommes jettent les dés, la main jette les dés, mais c'est Dieu qui décide. Ça n'est pas par hasard que Mardochée a été informé du complot, ça n'est pas par hasard si on a oublié de le récompenser. Ce n'est pas par hasard si le roi n'a pas dormi cette nuit-là. Le hasard, Albert Einstein a dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Aman a tiré au sort, mais c'est le 12e mois qui est sorti, le mois d'Adar. Si ça avait été le 3e, le 6e, ou le 4e, le 5e, ou le 6e, alors le contre-décret n'aurait pas eu le temps de paraître avant l'extermination de Dieu. Dieu gouverne la chose. Dieu a gouverné le calendrier. Le 12e mois donnait suffisamment de temps à un autre décret de paraître, puis aux Juifs d'organiser leur défense. C'est Dieu qui décide. Aman médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas et les dirige vers la rue. Environ 2400 ans après ces événements, le récit d'Esther a repris vie d'une certaine manière en Russie. C'était le 1er mars 1953, à peine 8 ans après l'Holocauste qui avait coûté la vie à 6 millions de Juifs. Joseph Staline révéla aux dirigeants du parti un plan qui visait à éliminer 3 millions de Juifs, c'est-à-dire tous les Juifs de l'Union soviétique. D'après l'archiviste, lorsque Staline eut achevé de faire connaître son plan, il eut un silence mortel dans tout le Politburo, dans toute cette pièce. Furieux, Staline vociféra, sortit du cabinet ministériel en claquant la porte. Le plan de Staline devait être exécuté le 9 mars. Mais le 2 mars 1953, le lendemain du jour où il avait dévoilé son plan pour détruire 3 millions de Juifs, le maître du Kremlin est frappé d'une crise cardiaque. Sa dépouille fut exposée pendant une semaine et le service funèbre eut lieu le 9 mars, le jour de la fête juive de Purim. Pas de hasard. Cette histoire qui avait donné lieu à de nombreuses rumeurs fut confirmée officiellement par Lulia Lufanov, une bibliothécaire soviétique non juive, qui a travaillé pendant plusieurs années aux archives ultra-soviétiques de Moscou. Elle a émigré aux États-Unis, où elle vit actuellement, et elle a publié cette histoire. On pourrait se dire, Dieu dirige tout. Alors on devient une simple marionnette qui n'est plus responsable et ne peut être condamné. Peu importe ce que je fais, Dieu arrivera à son dessein. Et d'une certaine manière, oui, Dieu va accomplir son dessein. Si Esther ne s'était pas présentée devant Assuérus, le salut de la nation serait intervenu de toute façon. Mais elle, Esther, serait morte. C'est ce qu'avait compris Mardochée. Mais Dieu coopère avec les hommes pour accomplir sa volonté. Dieu coopère avec les hommes pour accomplir sa volonté. La providence de Dieu doit nous pousser à faire ce qui est juste. Parfois, on ne comprend pas vraiment ce que Dieu est en train de faire. Alors, c'est d'autant plus important de continuer à obéir et à avancer fidèlement ce que nous savons être sa volonté. Dieu a coopéré avec chacun des acteurs de l'histoire, mais on ne peut pas pour autant nier la réalité de leurs choix et de leurs actions. Vasti est destitué à cause de son refus de paraître en présence des invités du roi. Aman meurt pour avoir élaboré ce génocide. Mardochée, lui, est élevé pour avoir dénoncé ce complot. Au fond, leurs choix ont eu des implications directes dans leur vie. Et c'est ce qui est difficile pour nous. À quel point nos choix, nos décisions peuvent influencer le plan de l'univers. À quel point sommes-nous libres? L'Écriture ne nous explique pas exactement comment Dieu articule sa direction providentielle avec notre volonté et nos choix responsables. Mais plutôt que de nier l'aspect divin, de nier l'aspect humain, simplement parce que nous ne sommes pas capables d'expliquer comment les deux peuvent être vrais en même temps, nous devrions simplement accepter les deux dans un souci de fidélité à l'ensemble des Écritures. Parce que partout, dans toutes les Écritures, du commencement jusqu'à la fin, nous voyons ces choses marcher ensemble. Une volonté et un dessein extraordinaire de Dieu, une fidélité pour l'humanité. Et puis on voit les hommes faire des choix. On voit les hommes faire de mauvais choix. Et pourtant, tout cela entre dans le plan de la rédemption de Dieu. Enfin, je voudrais terminer avec cette pensée. Tout cela est arrivé sans erreur. C'est-à-dire que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il a marié Esther à Assuérus. Il ne s'est pas trompé quand on a oublié de récompenser Mardochée. Il ne s'est pas trompé quand Assuérus a lâchement signé le décret d'extermination des Juifs. Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne s'est pas trompé dans votre vie. Et le plan qu'il est en train de poursuivre est son plan parfait, son dessein éternel qu'il a mis en œuvre pour vous. Parfois on pense à Dieu qui avait un super plan, plan A, et puis à cause des méchanceté des hommes, de leur décision, etc., il a dû changer et adapter son plan, plan B. Et puis, à nouveau, plan C. Le plan A, c'est le meilleur. Là, on est plan A. Dieu a qu'un seul plan, et parce qu'il est Dieu, il est capable de le conduire à terme. Il va aller jusqu'au bout. Et la providence de Dieu, c'est ça. Dieu gouverne un plan parfait qui va amener à la fin, à son terme. Dieu ne change pas son plan au fur et à mesure. Dieu ne s'adapte pas. Dieu déroule son plan. C'est cela qui doit nous donner beaucoup d'assurance, beaucoup de joie. Je vous invite à réfléchir un petit peu sur votre vie et à faire un peu son temps avec une nouvelle crème, à faire les boutiques, à acheter sur Internet. Toute sa vie c'était ça, c'était moi. continue à me faire confiance, avance fidèlement. Quand tu prends, lis ma parole, entretiens une relation avec moi. Sers-moi, témoigne autour de toi, de ta part. Prends ta part dans son œuvre. Moi, je conduis. Moi, je suis juge. On pourrait dire, quand même, ce décret qui, irrévocable, qui proclame les salutations. Dans votre vie.